Tout d'abord, merci à toutes celles et ceux qui sont là ce soir dans cet amphithéâtre pour parler de ce que nous avons intitulé « Adieu à la guerre, à la grande guerre, oui, à la grande guerre », avec un point d'interrogation. Il ne vous a pas échappé que le centenaire de la grande guerre est là et bien là. Mais peut-être ne vous a-t-il pas échappé non plus que dans le discours récent prononcé par le président de la République au Mont-Valérien, le président a annoncé la panthéonisation de 4 personnalités qui sont d'abord liées à la Seconde Guerre, pas à la Première. Vous me direz que d'ici 2018, il reste du temps pour éventuellement en faire entrer au Panthéon quelques personnalités de la première. Mais enfin, il ne vous a pas échappé enfin que le prix Goncourt 2013 avait été attribué à un roman consacré à la guerre de 14. À l'annonce du prix, Le Monde titrait « Les gueules cassées de Pierre Lemaître ». Et Bernard Pivot, rappelant qu'il venait du polar, parlait de son écriture haletante et très cinématographique. Roman consacré à la guerre de 14, est-ce si sûr? Si vous ouvrez le livre, le roman de Pierre Lemaître, vous constaterez assez vite qu'il commence en réalité le 1918. Bon, que une autre date dans le roman, si je ne me trompe, est celle de novembre 1919, où le père du jeune homme, en principe mort, prend conscience de la mort de son fils. Et, donc nous sommes déjà dans l'après-guerre, et qu'il décide qu'il veut absolument le monument aux morts, bon, qui va être l'objet principal de l'intrigue, comme vous le savez très vraisemblablement, qu'il veut que le monument soit achevé pour le 11 novembre 1920. Donc, ce roman se situe bien dans l'après-guerre, mais pas encore dans l'après-coup. Jean Rouault, avec ses Chants d'honneur, qui a obtenu le prix Goncourt en 1990, lui est clairement dans l'après-coup, puisque c'est la succession des morts, celle de son père, de la petite tante Marie, qui est en fait une grande tante, et du grand-père maternel, c'est la succession de ces morts qui rend possible la remontée vers la guerre. Et je ne résiste pas à citer la quatrième de couverture, et je résiste d'autant moins que, si vous avez lu le dernier livre de Jean Rouault, Un peu la guerre, tout récent, il nous apprend que cette quatrième de couverture a été rédigée par Jérôme Lindon. Ils sont morts à quelques semaines d'intervalle. D'abord le père, puis la vieille tante de celui-ci, enfin le grand-père maternel. Mais cette série funèbre semble n'avoir fait qu'un seul disparu, le narrateur, dont le vide occupe le centre du récit. C'est à la périphérie et à partir d'infimes indices, un dentier, quelques photos, une image pieuse, que se constitue peu à peu une histoire qui finira par atteindre, par strates successives, l'horizon de l'histoire majuscule avec sa grande guerre, berceau de tous les mystères. Et c'est pourquoi l'édition de poche des Chants d'honneur me paraît avoir manqué ce qui fait le mouvement même du livre en mettant en couverture la photo d'un poilu. Puisque, en réalité, la guerre, elle n'arrive qu'à la fin. Et pas du tout, on n'est pas d'emblée dans la guerre.
Il n'y a pas de
Et on apprend aussi, toujours dans un peu la guerre, qu'à l'occasion d'un salon du livre, Jean Rouault avait rencontré une écrivaine israélienne, je crois, qui était, donc il lui présentait, et elle lui dit « But you are so young ». Quant à quelle histoire, le livre qui nous réunit ce soir, quant à quelle histoire, il est explicitement sous-titré « Un récit de filiation » avec deux dates, 1914-2014. Et l'acteur principal du livre, comme le dit l'auteur, le tueur qui a fracassé les relations père-fils sur trois générations, Robert, Philippe et l'historien, c'est bien la guerre, et c'est la guerre qui, dit-il, demeure l'événement central du livre, et c'est aussi pourquoi ce livre est un livre d'histoire ou présenté de manière très claire, très déterminée, comme un livre d'historien. Adieu à la guerre, avec un point d'interrogation. Alors, ça n'est pas une façon de faire les malins, de dire, voilà, nous faisons, on commémore comme ça, sous la mode de l'adieu, avec un point d'interrogation. Ça n'est pas non plus se placer sur le dernier adieu, au dernier poilu ayant eu lieu. Voilà, le chapitre est clos. Non. La guerre, c'est aussi l'ombre portée de la guerre. Jusqu'où cette ombre s'est-elle étendue? D'autant plus difficile à mesurer l'extension de cette ombre qu'il y a eu le silence, qu'il y a eu les incompréhensions. Adieu, le mot se trouve chez Audouin Rousseau lui-même, tout à fait à la fin du livre, il est peut-être temps de lui dire adieu à cette guerre. Mais pour cela, il a fallu qu'il comprenne que pendant 40 ans, il avait tourné le dos à son père, tout comme son père avait tourné le dos au sien. Donc se retourner et faire face. Bref, interpréter les silences et remettre en marche le temps, en allant du présent au passé, mais aussi du passé au présent, c'est-à-dire aussi en pouvant être historien. La guerre de 14 a donné lieu, je le croyais, à trois prix Goncourt. Barbus, en 1916, mais j'ai appris, en effet, en lisant le livre de Laurence Campa, la biographie de Laurence Campa sur Apollinaire, qu'il y avait un double prix Goncourt en 1916 qui avait été attribué à Barbus, d'une part, et à Adrien Bertrand, d'autre part, pour un livre qui s'appelait « L'appel du sol », que je n'ai évidemment jamais lu. Donc, trois Goncourt et demi, ou je ne sais pas comment il faut dire, pour la guerre de 14. Barbus, Bertrand, Jean Rouault, 1990, Pierre Lemaître, 2013. Bien évidemment, cette chronologie, cette esquisse de chronologie, n'est pas, si l'on met les livres ayant été primés pendant la guerre, qui sont d'une nature différente, cette chronologie n'est pas séparable du phénomène mémoriel, beaucoup plus large, qui ne concerne pas seulement la guerre de 14, du phénomène mémoriel beaucoup plus large qui s'est emparé de nos sociétés depuis les années 1970. Jusqu'à présent, j'ai fait comme si ces trois livres relevés du même genre étaient des romans, ce qui n'est pas le cas. Or, Audouin Rousseau est historien et revendique, comme je viens de l'ai déjà dit, d'avoir écrit un livre d'histoire. Après tout, il aurait eu tout à fait le droit d'écrire un roman ou un récit de vie. la guerre est le personnage central et l'intrigue, c'est celle de ce que la guerre a fait au mien. Mais Audouin Rousseau reconnaît une dette tout à fait réelle et importante à l'égard de Jean Rouault. Il va même jusqu'à écrire, dans un texte qu'il m'a permis de lire, que ces chants d'honneur m'ont sauvé, dit-il, ce qui n'est quand même pas rien comme formulation. Peut-être pourra-t-il nous dire ce qu'il entend par là. Cette rencontre est aussi une occasion, en invitant à cette lecture croisée du livre d'Audouin Rousseau, l'occasion d'un échange sur les rapports entre littérature et histoire. Vous le savez, cette thématique a donné lieu à pas mal de débats ces dernières années, pas mal de polémiques, mais qui sont partis bien de livres sur la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons eu ces débats sur les écrivains écrivant les livres que les historiens n'ont pas écrits, ne sont pas capables d'écrire, ne seront jamais capables d'écrire, etc. C'est bien aussi la raison pour laquelle je remercie, outre les deux écrivains que nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir dans cet amphithéâtre ce soir, les deux autres intervenants, Laurence Campa, qui est spécialiste d'Apollinaire, comme je l'ai déjà dit, qui vient de publier cette monumentale biographie d'Apollinaire, et Apollinaire, du jour où il s'engage jusqu'à sa blessure et sa mort en novembre 18, est un soldat parmi les autres, et elle a suivi pas à pas l'artilleur Guy de Kostrowitski. Et du même coup, elle s'est trouvée confrontée, de manière très concrète, à la question de la littérature et de la guerre, dans le moment même, mais pas dans l'après-coup. Antoine Lilti, historien, spécialiste des Lumières, a été un des concepteurs d'un numéro spécial des Annales, paru de la revue Les Annales, publié en 2010, sous le titre « Savoir », au pluriel, « Savoir de la littérature ». Avec comme pari de ce numéro, non pas la part de fiction chez les historiens, non pas chercher ou traquer ou faire apparaître la part de fiction chez les historiens, mais plutôt, dans le sens inverse, se demander de quel savoir la littérature est-elle porteuse. Trois mots encore. J'ai remarqué que les titres de vos livres ne sont pas de vous. Même si ce sont bien ceux que vous avez choisis ou qui se sont imposés à vous. Au revoir là-haut, le titre de votre livre, ce sont les derniers mots de Jean Blanchard à son épouse, dont on apprend à la toute fin du livre, presque la dernière ligne, qu'il a été fusillé pour traîtrise en 1914 et réhabilité en 1921, ce qui donne le ton, ou en tout cas un ton, au livre. Les chants d'honneur, le titre du livre de Jean Rouault, il vient d'une image pieuse qui était glissée dans le missel de la petite tante Marie et qui représentait une grande croix noire avec un florilège de bataille et l'inscription au pied de la croix, pieux souvenir des héros, et avec un espace où l'on pouvait inscrire le nom du héros que l'on voulait mettre, faire figurer, et elle avait écrit le nom de son frère, Joseph, celui qui est mort en 1916, et qui, au fond, lance toute la possibilité du livre. Quelle histoire, le titre du livre d'Audouin Rousseau. Ce sont les derniers mots, faussement enjoués, du père à son fils, au moment où il l'emmène à l'hôpital, où il mourra le lendemain. Ces trois titres sont donc des paroles testamentaires. Elles obligent ceux qui les reçoivent ou les font leurs. Elles rendent possible, nécessaire peut-être, d'écrire ces histoires, cette histoire. Je vais maintenant m'arrêter de parler et passer la parole aux uns et aux autres en vous invitant à, peut-être dans un premier temps, à prendre comme point de départ le livre de Stéphane Audouin-Rousseau. Comment vous l'avez lu? Quelles questions il vous pose? Pensez-vous que cette démarche est répétable? Et toutes les autres questions que vous souhaiterez poser. Nous allons procéder de la manière suivante. Antoine Lilti va ouvrir la conversation. Jean Rouault, s'il le veut bien, prendra la suite. Laurence Campa, ensuite. Pierre Lemaître, après. Et enfin, Stéphane Audouin-Rousseau, s'il reste du temps, aura la parole pour une brève intervention. Et puis, si nous l'a laissé du temps, alors nous ferons un deuxième tour. Et enfin, alors là, très hypothétiquement, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez poser.
Merci, bonsoir à tous. Donc, je vais essayer, effectivement, le principal défi va être, puisque je parle en premier, de ne pas accaparer trop longtemps la parole, alors qu'il y a tant à dire à la fois sur le livre de Stéphane Audouin-Rousseau et aussi sur les relations qu'on peut dresser avec les deux autres livres. Je vais partir d'un point tout de suite, qui est de dire que ceux d'entre vous qui ont déjà lu le livre de Stéphane Audouin-Rousseau le savent. C'est un livre qui est construit sur un faux-semblant, on pourrait même dire presque un coup de théâtre. C'est un coup de théâtre que je vais m'empresser de vous révéler, comme ça ceux qui ne l'ont pas lu seront très déçus. Ce coup de théâtre, c'est le fait que le lecteur comprend, en achevant la lecture, qu'il a lu en réalité un autre livre que celui qui était annoncé. Dans les premières pages, en effet, le livre, et François Hartog vient de le rappeler, dans les premières pages, le livre se présente comme un livre d'histoire, par lequel un historien confirmé, sûr de ses méthodes, de ses protocoles de recherche, comme il le dit dans les premières pages, applique ses protocoles à sa propre famille. Et de fait, une bonne partie du livre correspond à ce projet, qui est certes un peu expérimental au regard des habitudes des historiens, mais qui reste une opération historiographique relativement contrôlée et contrôlable. Et effectivement, dans les premiers chapitres, l'historien applique à ses grands-pères, Max et Robert, et à celui de sa femme, Pierre, qui ont donc tous combattu pendant la Première Guerre mondiale, il leur applique les méthodes de l'historien. Il s'appuie sur des sources classiques de l'historien, des récits, des correspondances, des sources orales, dûment mentionnées, citées en notes, critiquées, commentées. Alors certes, ces sources ont l'originalité de lui appartenir, d'être des sources familiales, des archives familiales, donc des sources dont il a hérité et qui ne témoignent bien d'un lien familial, d'une filiation, mais ces sources, justement, en les traitant comme les historiens traitent leurs sources, y compris dans l'écriture historienne, cela lui permet de les objectiver, de les tenir à distance. Et donc, effectivement, des protocoles de recherche appliqués à ces personnages qui ont la spécificité d'être les grands-pères, les grands-parents de l'historien. Mais, assez rapidement, la trajectoire du livre se modifie. Cette distance entre l'historien et ses objets et ses sources, cette distance se réduit, comme si l'expérimentateur devenait, sous l'effet de l'enquête, l'objet même de l'expérience, au fur et à mesure qu'il accepte de reconnaître à quel point il est en réalité touché, affecté par l'histoire qu'il raconte. À quel point elle l'engage non seulement comme historien, mais aussi comme personne. Ce renversement de perspective a progressivement lieu à partir du chapitre 3, avec l'entrée en scène de Philippe, donc le père de l'auteur, et le fils de Robert, le grand-père. C'est lui, Philippe, qui, le livre le dit explicitement, qui a rompu la filiation, en refusant de comprendre l'expérience de guerre de son père et le traumatisme qui s'en est suivi, en ne prenant pas en charge le travail de deuil, en tournant le dos à cette histoire. Et en même temps, il a transmis quelque chose, il a transmis le témoignage écrit de son propre père, de Robert, il l'a transmis à son fils, Stéphane. Il lui en a fait don, dit l'historien. Il l'a transmis, il l'a consigné dans ses mémoires, mais il ne l'a pas vraiment lu. Stéphane Audouin-Rousseau insiste là-dessus, il ne l'a pas vraiment lu, il ne l'a pas compris. La transmission est donc incomplète. Et de cette transmission incomplète, de cet héritage incomplet, Philippe lui-même, comme Robert, en a été victime. Il a été victime de l'histoire. Philippe a été en apparence victime d'une autre histoire, c'est-à-dire de l'histoire de l'échec des illusions révolutionnaires des années 60. Mais en réalité, c'est la thèse du livre, il a été victime d'une autre histoire, celle de la Première Guerre mondiale et de ses effets de l'ombre portée, de longue durée, des effets de la Première Guerre mondiale. Si bien que, à la suite de ce retournement, les dernières pages peuvent affirmer avec force ce que le lecteur a désormais compris, qu'il vient de lire autre chose qu'une série, qu'une histoire de plusieurs expériences de guerre. Il vient de lire, en réalité, un roman de formation. Il vient de lire la genèse d'une vocation d'historien. Pourquoi, comment et pourquoi Stéphane Audouin-Rousseau est devenu historien de la Première Guerre mondiale. Donc non plus un historien qui applique des protocoles de recherche, mais un fils qui a hérité, je cite, de quelques outils non conformistes, qu'on est passé des protocoles de recherche à des outils non conformistes, pour affronter la scène primitive de l'histoire familiale, la Première Guerre mondiale. Tout le travail d'historien de Stéphane Audouin-Rousseau, depuis sa thèse, nous dit-il, apparaît dès lors comme un choix inconscient qui visait à objectiver la guerre, à désactiver son pouvoir de nuisance, à désactiver les effets délétères de sa violence en rompant avec le refoulement et le silence. Le refoulement et le silence, c'est-à-dire ces attitudes qui avaient été le propre des deux générations précédentes et qui les avaient minées, qui les avaient détruites. Je cite un passage que François Hartog vient déjà en partie de citer, qui est effectivement extrêmement fort et puissant. « Mon travail d'historien est issu de cette subtile trahison. » Je vais revenir sur ce terme. « Le tueur qui avait fracassé les relations des pères et des filles sur trois générations, je n'ai jamais abandonné sa poursuite. Robert était sorti indemne de la guerre, mais l'avait perdu. Faute d'avoir compris la défaite de son père, Philippe perdit à son tour d'autres guerres. J'ai voulu comprendre leur défaite. J'ai tenté de le faire par l'histoire. Ceci, bien sûr, à mon insu. » Alors, je vais revenir ensuite sur cette question de « à mon insu », qui est très présente dans le texte. Non, je vais revenir rapidement. Mais pour l'instant, la question essentielle est celle de la filiation. En travaillant sur la Première Guerre mondiale, l'historien a-t-il subtilement trahi le père, poète et antimilitariste, qui tenait d'ailleurs, ça nous est rappelé, les universitaires en piètre estime. Le grand-père par alliance, Pierre, est-il une figure de substitution, de même qu'André Breton était pour Philippe un père de substitution. En réalité, cette trahison qui n'en est pas une était le geste nécessaire pour mener le travail d'objectivation que Philippe n'avait pas voulu faire. Mais dans ce geste même par lequel l'historien renoue les fils de la filiation, ce geste même n'est possible que grâce à une fidélité. Car plus encore que les protocoles de l'historien, ce que ce livre-ci met en évidence, il me semble, c'est l'importance des outils légués par le père, par Philippe. Or, ces outils, quels sont-ils? Ils sont l'intérêt pour les objets et pour le concret, très présent à la fin du livre. Et surtout, c'est l'écriture. C'est l'écriture, c'est ce qu'à un moment dans le texte, Stéphane Audouin-Rousseau appelle la leçon d'écriture qui lui est donnée par son père au moment où il corrige le manuscrit de la thèse. Effectivement, le père qui, lui, avait fait le choix de la littérature contre l'histoire. Et on pourrait montrer, alors j'ai évidemment pas le temps de le faire maintenant, mais la variété des outils proprement littéraires utilisés par Stéphane Audouin-Rousseau dans ce livre aussi. Ne serait-ce, je ne donnerai qu'un seul exemple, le jeu subtil de variation entre la première et la troisième personne lorsqu'il s'agit de se désigner. Il parle souvent à la première personne, « je », mais parfois il dit, par exemple, « le fils de Philippe », pour se désigner. Donc ce jeu, on pourrait en montrer les effets, est une manière, là aussi, une attention extrêmement précise à des effets textuels, mais aussi la présence même des mémoires de Philippe. Mais la littérature n'est pas seulement une question d'écriture, ou de style. Hein, au fond, ce renversement que j'ai décrit renvoie, il me semble, à une tension entre l'histoire comme discipline savante, et donc l'histoire qui, en tant que discipline savante, affirme en permanence sa scientificité ou son objectivité, ou sa prétention savante, en mettant à distance ces objets, en creusant l'écart, en creusant le détachement par rapport à ces objets, et d'autre part, la littérature où un sujet essaye de dire la façon dont le monde l'affecte. Alors la grande leçon du livre, il me semble, c'est justement de faire vaciller cette dichotomie trop simpliste entre l'histoire et la littérature, et l'endroit, je crois, où elle vacille de très belle manière, c'est dans une des plus belles scènes, à mon avis, du livre, c'est le moment où le jeune historien, qui était Stéphane Audouin-Rousseau, lit à son père la lettre d'une femme de Poilu à son mari au moment où il part à la guerre. Et là, la lecture du document historique par un jeune historien en train d'écrire sa thèse bouleverse à la fois le fils et le père. Et c'est ce qu'il appelle une scène de la rencontre. Et donc, par cette lecture, la capacité qu'a cette source, ce document, justement, à échapper à son statut de simple document historique pour devenir un texte dont la beauté et l'émotion bouleversent à la fois le père écrivain et le fils historien, je crois, montre le vacillement ici de ces deux régimes de rapport au passé. On voit bien que là, le rapport au document à la source est tout à fait différent de ce que je décrivais à l'instant. Alors, à partir de ces remarques, je souhaiterais poser trois questions pour lancer le débat à Stéphane Audouin-Rousseau. Alors, la première porte sur cette formulation qui revient à plusieurs reprises dans le livre, « à mon insu ». En fait, trois fois, ça revient. Alors, si cette motivation est inconsciente, si ce désir de filiation qui est à l'origine du travail historique est inconscient, la question est quand la prise de conscience a-t-elle eu lieu ? Est-ce que le livre est une conséquence, est-ce que le désir d'écrire ce livre-ci est une conséquence de cette prise de conscience ? Ou est-ce que c'est l'écriture même du livre qui a permis à l'historien de voir le fils et le petit-fils en lui, de faire émerger cette détermination qui était à l'origine du désir d'histoire ? Et dans ce cas, le récit de filiation, et notamment le récit comme écriture, serait l'instrument de la réflexivité de l'historien. Donc là, on a, à mon avis, quelque chose sur laquelle je n'ai pas de réponse, et j'aimerais bien avoir celle de Stéphane Audouin-Rousseau. Ma deuxième question porte sur le modèle sous-jacent d'explication de ces effets portés de la Grande Guerre sur non seulement les survivants, mais leurs enfants, voire les petits-enfants, puisqu'il me semble que le modèle qui n'est jamais explicité, c'est le modèle psychanalytique du retour du refoulé. Les effets de la guerre sont d'autant plus forts et cruels qu'ils ne sont pas affrontés ouvertement, explicitement, ni par les survivants, ni par leurs descendants. Face à ce silence, à ce déni, le savoir historien permettrait de réduire la souffrance, de tenir le passé à distance, en objectivant l'expérience du passé. Mais sur l'efficacité, justement, de ce savoir, de cette démarche historienne, pour lutter contre le déni, il me semble qu'il y a comme une hésitation. Alors, dans un des précédents livres de Stéphane Audouin-Rousseau, « Combattre », on avait justement eu un jeu sur entre l'impuissance des sciences sociales à maîtriser la violence guerrière comme objet et en même temps leur utilité à ces mêmes sciences sociales pour lutter contre le silence et l'inconscience. Et il terminait en écrivant « Je reste persuadé, à propos de la guerre et de la violence guerrière, je reste persuadé que mieux vaut la regarder de fort près et bien en face ». Et à cette conclusion fait directement écho, je crois, à la conclusion de ce nouveau livre, « Quelle histoire ?», où il écrit « Au moins ai-je tenté de viser la Grande Guerre dans son œil ?» Donc, on est tellement près qu'on peut passer au combat rapproché. Donc l'histoire ne fournit plus seulement des protocoles et des outils, mais bien des armes. Mais c'est sur cette efficacité même de cette arme qu'on peut s'interroger. Peut-on vraiment dire adieu au passé ? Enfin, dernière question, en deux mots. Et peut-être une question un peu plus provocatrice. Si les protocoles de recherche dont l'historien était si assuré au début du livre, s'ils ne sont au final que des outils non conformistes, forgés pour répondre à la singularité d'une histoire familiale, si le petit-fils est devenu historien à son insu pour venger le père et le grand-père du tueur qui a été la Première Guerre mondiale, est-ce que cela fragilise ou non la généralité des conclusions de l'historien ? Et en particulier, l'importance du thème du silence, du déni, de l'évitement de la guerre, qui est si présent dans l'ensemble du travail historiographique de Stéphane Audouin-Rousseau, dans quelle mesure est-il la généralisation d'une expérience familiale ? Si le désir d'histoire s'ancre à ce point dans une entreprise visant à renouer une filiation, et donc dans un rapport particulier à une histoire, son statut de savoir général en est-il renforcé par cette réflexivité ou en est-il fragilisé ? C'est une question véritablement ouverte.
Merci, merci, merci. Donc je passe tout de suite la parole à Jean Rouault.
Oui. D'abord dire que j'ai adoré le livre de Stéphane Audouin-Rousseau. C'est comme tous ces livres qui ne relèvent d'aucun genre, qui sont dans l'entre-deux, où c'est évidemment une œuvre où il y a toute la puissance du historien, mais il y a aussi dans la confession qui est quasiment autobiographique, on est dans l'aveu. Et en fait, c'est un livre de l'aveu, c'est le livre du balai masque. J'ai un terme pour ça, j'appelle ça un coming out poétique. Vous savez, c'est Barthes au Collège de France. Dans son discours inaugural, il est évidemment nommé là parce que c'est un théoricien de la modernité littéraire qu'il a écrit, qu'il a annoncé la mort de l'auteur, qu'il a écrit des préfaces sur tout et n'importe quoi. Et au lieu de nous parler de ça, il commence par dire, il intitule sa conférence « Longtemps je me suis couché de bonheur », donc hein, la première phrase de « L'archive du temps perdu », et il dit voilà, je suis au milieu de ma vie, et il dit, c'est en reprenant la phrase de la Divine Comédie. Évidemment, il précise que ce n'est pas un milieu mathématique, puisque personne ne connaît le milieu de sa vie sans en connaître le terme. Et il dit, mais voilà, j'ai passé la moitié de ma vie à faire ça, ce que l'on connaît de moi, des préfaces, etc., d'avoir mon mot à dire sur un peu tout. J'ai théorisé comme ça toute une sémiologie du monde et tout. Et en fait, ça ne m'intéressait pas. Maintenant, je vais vous dire ce qui m'intéresse. Et donc, il fait ça au Collège de France. Ce qui m'intéresse, ce serait de devenir Proust. Et soudain, il y a cette espèce de balai-masque où on voit cet homme qui ne lutte plus, qui en a marre d'avancer véritablement masqué, de passer pour ce qu'il n'est pas et de faire cet aveu. Voilà, je veux devenir romancier comme Proust. Et il se met à faire un éloge du pathos, et pour les gens de ma génération, il faut se rappeler que le pathos était la chose honnie absolument par la théorie littéraire. On ne pouvait pas plus se vautrer dans la lie que dans le pathos. Et il y a ce théoricien de la pointe de la modernité littéraire qui était Barthes, qui se met à faire l'apologie du pathos, et donc cet aveu qu'il voulait devenir romancier, alors que jusque-là, le roman était mort et que, évidemment, un romancier était un sinistre abruti. Et donc, cet aveu, c'est un aveu du même ordre que l'on trouve dans le livre de Stéphane. C'est-à-dire qu'on voit comment il a engagé tout un processus comme ça pour dire son chagrin, pour camoufler comme ça la source de sa peine. Et donc, il a pris en otage toute la Première Guerre mondiale. Et c'est quelque chose que je connais, puisque tout à l'heure, notre ami citait la phrase que la tante Marie avait inscrite sur l'image pieuse des champs d'honneur, et qui disait « Pieux souvenir des héros, mort de Joseph Rouault, blessé en Belgique, mort à Tours le 26 mai 1916, à l'âge de 21 ans. » Donc le livre est parti de là. Or, pas une seconde à ce moment-là, je n'ai vu que Joseph Rouault, c'était le nom de mon père. Hein. Donc on avait donné à mon père, ce qui arrivait évidemment souvent, le prénom de son oncle mort pendant la guerre en 1916. Et j'ai entrepris d'écrire sur la Première Guerre mondiale uniquement par ce subterfuge-là. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu voir, puisque j'étais incapable encore de parler de la mort de mon père, j'ai parlé de ce Joseph Rouault dont je ne savais rien d'autre que cette indication qu'en donnait sa sœur sur cette image pieuse, en inventant qu'il avait été gazé, ce que j'ignore absolument, tout simplement parce qu'il y avait un délai entre la blessure en Belgique, où je savais qu'il y avait eu des attaques au gaz, et sa mort à Tours quelques semaines plus tard. Donc, voilà, j'ai inventé cette séance de gazage, et c'est presque 15 ans après avoir écrit ces pages-là, que j'étais à Troyes, dans la bibliothèque de Troyes, il y avait des comédiens qui lisaient des extraits de mes textes, et j'entends lire les pages sur les gaz, et j'entends mon texte dire « Allez dire à Joseph ses poumons brûlés ». Donc, évidemment, dans le texte, il s'agit des poumons brûlés par les gaz. Et soudain, pour les plus anciens aussi, « Mais bon Dieu, mais bien sûr », du commissaire Bourrel, 15 ans après, je comprends que j'avais convoqué la Première Guerre mondiale et donc inventé les gaz de combat pour dire la mort de ce Joseph. Et en fait, ça disait qu'une chose, c'était la mort de cet autre Joseph, les poumons brûlés, non pas par les gaz de combat, mais par la fumée des gitanes dont il consommait 2 ou 3 paquets par jour. Et ça a été comme une espèce d'illumination, de flash comme ça. Et donc, je me suis dit, mais alors si je n'avais pas, si tout de suite, en lisant l'image pieuse, j'avais compris qu'en fait, ce Joseph Rouault qui m'intéressait, ce n'était pas celui de l'image pieuse, mais c'était mon père, je n'aurais donc jamais convoqué la Première Guerre mondiale pour les champs d'honneur. Donc, du coup, il n'y avait pas de champs d'honneur, donc c'était un autre livre, évidemment. En même temps, je sais aussi maintenant que cette convocation de la Première Guerre mondiale, c'est une convocation poétique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement ce truchement psychanalytique qui m'a fait parler de la Première Guerre mondiale, c'est que poétiquement, il y avait une vraie raison, à savoir que tout le siècle, et pour nous, évidemment, ici, dans ce pays-là, avait été marqué par la mort, par la tragédie, par les guerres, et que la Première Guerre mondiale avait donné la tonalité poétique du siècle. Donc, elle était convoquée aussi pour ça. Et en lisant le livre de Stéphane, en sachant qu'on se croise comme ça depuis assez longtemps et qu'à chaque fois on a un échange un peu fructueux, j'ai reconnu au fond le même truchement. C'est-à-dire que lui s'était engagé, avait engagé sa vie dans ce métier d'historien, de spécialiste reconnu de la Première Guerre mondiale, pour en fait dire, camoufler comme je l'avais fait, camoufler ce chagrin de fils. Ayant perdu son père et ayant vu son père mourir sous ses yeux. Et on sait que le travail de Stéphane, partant de la Première Guerre mondiale, va ensuite bifurquer vers les violences de guerre, donc vers les violences faites au corps, et que dans cette violence faite au corps, je ne peux pas m'empêcher, partant donc du grand-père, qui serait donc la figure de la Première Guerre mondiale, quand Stéphane glisse dans ces violences de guerre, avec la violence faite au corps et souvent aux civils, je ne peux pas m'empêcher, après avoir lu son livre, de lire que cette violence faite au corps, c'est l'alcool cette violence que l'alcool fait au corps de son père. Et donc, quand on lit quelle histoire, effectivement, avec cette ironie, du coup, que recouvre le titre, quelle histoire, hein, c'est une drôle d'histoire, puisqu'en fait, vous pensiez lire une histoire, vous pensiez que je m'intéressais à l'histoire, mais c'était évidemment une autre histoire, et que c'est... Quelle autre histoire nous intéresse plus que celle de la filiation, de celle de l'héritage, et quand on hérite d'une part de chagrin, d'une part de sanglots et de souffrances, il est évident que c'est cet héritage-là que l'on met en scène. Et donc, l'aveu, puisque je disais que c'était un livre de l'aveu, l'aveu du livre de Stéphane, c'est au fond de dire, voilà, j'ai eu besoin de toute cette histoire du siècle, à travers la guerre, à travers la violence guerrière faite aux civils, pour dire mon chagrin devant la mort de cet homme. En sachant aussi qu'il y a cette figure très importante de Breton, qui est donc Breton qui était médecin, hein, donc normalement qui soigne, et qui soignait les maladies psychiques dues au traumatisme de guerre, qui est évidemment celui qui, par le surréalisme, et après Dada, considère qu'on ne peut plus s'en remettre à la raison, puisque la raison raisonnante, la belle logique dont on vantait, que l'on accolait à chaque fois aux Français et qui était un monument de clarté, si cette phrase-là, raisonnante, logique, vantée par Champfort, nous amenait à la grande boucherie, alors déraisonnons, reprenons le dérèglement des sens de Rimbaud, ne faisons plus confiance à la raison, ne faisons plus confiance à la logique, et nous nous en remettons donc à la débâcle de l'intellect. Débâcle de l'intellect, c'est une phrase de Breton qui se trouve dans l'Immaculée Conception, au texte qu'il écrit avec Éluard, et débâcle, c'est quand même un terme de guerre, c'est la débâcle, c'est quand soudain les armées refluent, et refluent en catastrophe. Ce n'est même pas une retraite glorieuse, la débâcle. Et donc, ce livre de Stéphane, au fond, pourrait être sous-titré comme ça, à savoir cette débâcle de l'intellect, lorsqu'il y a tous ces hommes qui vont être détruits par la folie d'autres hommes à laquelle ils ont aussi participé. Et la folie, encore une fois, c'était la spécialité de Breton alors qu'il était convoqué au front comme médecin spécialiste des maladies nerveuses.
Alors, je vais commencer par regretter quelque chose, c'est que le genre antique de l'éloge n'est plus court. Non pas tant parce que j'aurais chanté les éloges de Stéphane Audin-Rouzeau et de son livre, mais parce que peut-être j'aurais commencé par saluer son art consommé de la litote, cette manière de dire très peu pour suggérer beaucoup. Et la litote me semble vraiment à l'œuvre dans son livre, dès le titre lui-même, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, avec justement cette habile suppression de la ponctuation qui crée une ambivalence, des ambivalences qu'Apollinaire n'aurait pas reniées. Cette litote, je la trouve ailleurs dans le livre, quand il est question notamment du décalage entre le personnage familial de Max et ses lettres de guerre. Et Stéphane Audin-Rouzeau écrit: mais peut-être s'agit-il d'une simple question d'écriture. J'aime beaucoup cette phrase, une simple question d'écriture. Donc c'est surtout justement d'écart et de distance que je voudrais parler. La première fois que j'ai lu le livre, j'étais d'abord frappée et enthousiasmée au sens étymologique du terme par les liens et non pas par les écarts. Les liens parce que c'était une histoire de filiation et de transmission. Filiation entre hommes, mais où les femmes n'étaient pas exclues, hein, puisqu'elles apparaissent quand même, je trouve, de multiples manières. Transmission, filiation, j'étais frappée aussi par la question de la continuité, y compris dans les ruptures et les fractures. Après tout, on parle de solution de continuité, quand justement la continuité se dissout. Et puis évidemment, enthousiasmée aussi par les liens entre l'histoire et la littérature, et Stéphane sait bien que ça fait de longues années que je travaille à nous rapprocher, à nous comprendre. Mais quand j'ai relu le livre, ce qui m'a frappée, c'était plutôt les écarts, la distance, dont Antoine Lilti a parlé un peu déjà tout à l'heure. Plusieurs écarts, plusieurs distances. D'abord, tout simplement, l'écart qui consiste en l'éloignement. La distance, qu'elle soit temporelle, évidemment, les 100 ans qui nous séparent de ce conflit. Une distance qui était aussi générationnelle. Pierre qui n'est pas compris, qui n'est plus compris, comme ces anciens combattants qu'on avait fini par ne plus écouter. Distance aussi existentielle, si je puis dire, hein, entre Robert et Philippe qui ne se comprennent pas, entre Philippe et Stéphane qui ne se comprennent pas, et Stéphane allant au-delà de Philippe pour retrouver Robert. Distance aussi, et peut-être sans doute la plus douloureuse de toutes, distance de soi à soi. Distance avec ce qu'on est et ce qu'on aurait voulu être, ou ce qu'on était justement, ou ce qu'on croit être. On le voit très bien à l'œuvre, par exemple, chez Robert, dans son silence, dans sa détresse. On le voit aussi chez Philippe. Distance avec ce qu'il était, nostalgie de l'enfance, nostalgie du singulier, et puis nostalgie après la fracture de l'idéal surréaliste qui a sombré. L'écart n'est pas simplement l'éloignement, la distance, mais c'est aussi l'erreur, la différence, les erreurs de jugement, d'interprétation des personnages les uns par rapport aux autres, les uns sur les autres. L'écart, c'est aussi la marginalité, le décalage et la révolte. Et là, on pense évidemment au surréalisme. marginalité par rapport à la collectivité, écart par rapport à la norme, par rapport au conformisme, l'idéal surréaliste justement se situant en marge et en décalage par rapport aux normes. Je pense aussi aux normes sexuelles dont parle Pierre, le père, justement, hein, et qui est quelque chose qui est encore assez tabou, impensé, dans les tranchées. Et puis évidemment, marginalité, décalage, révolte par rapport aux conventions, et toute l'aventure surréaliste est fondée là-dessus. Et puis quatrième et dernier type d'écart, évidemment, rupture, folie, déviation, faiblesse. J'étais extrêmement frappée par la faiblesse des personnages, faiblesse touchante, faiblesse aussi désarmante, si je puis dire, pour un livre qui parle de guerre. Faiblesse qui passe par les fractures et les traumatismes. Et en fait, ces écarts, je les vois aussi, je les considère comme opératoires, si vous me permettez ce vilain mot, pour l'auteur lui-même, Stéphane Audouin Rouzeau. Puisque, comme l'a remarqué Antoine Lilti tout à l'heure, il y a bien aussi écart de soi à soi dans l'écriture, par cette façon très subtile, en effet, de manier les personnes, hein, troisième personne. Cette façon, par exemple, de s'objectiver, de prendre de la distance, de mettre de l'écart, puis de revenir à soi en réutilisant le jeu. Et je me souviens avoir écrit à Stéphane, après avoir lu le livre, « J'admire ta façon d'être personnelle sans être intime ». Et donc, justement, il y a cette espèce d'écart très subtil, cette distance suffisante et qui varie constamment. Et justement, dans l'écriture de ce livre, ce qui peut être aussi frappant, c'est cette tentative de réduction de l'écart. De réduction de l'écart entre le père et le fils, dans un travail justement d'analyse de l'historien. Et c'est pourquoi aussi j'étais très frappée par cette expression « subtile trahison ». Cet écart, on le voit aussi évidemment, et ça Antoine Lilti en parle bien mieux que moi, avec les règles historiographiques habituelles. Cela dit, il me semble que se trouve à l'œuvre dans le livre de Stéphane Audouin Rouzeau cette méthode, ou plutôt cette approche que j'admire beaucoup dans la micro-histoire et que définit très bien Carlo Ginzburg quand il parle d'estrangement. Cette façon, il emprunte la chose à Proust, parlant d'Elstir, cette façon de peindre les choses de l'autre côté. Non pas par les causes, mais par les perceptions qu'on en a. Et Ginzburg explique aussi qu'en fait, une des grandes différences entre la littérature et l'histoire, c'est que la littérature part des impressions, de la sensibilité, de l'imagination, alors que dans l'histoire, l'intelligence vient en premier. Et je dois dire, et je suis sûre que je ne suis pas la seule ici, que quand je lis Stéphane Audouin Rouzeau et que je le vois et que je parle avec lui, je trouve aussi que l'intelligence vient en premier. Mais justement, peut-être que ce qui est encore plus réussi, encore plus surprenant et encore plus touchant dans ce livre, Quelle histoire, c'est que je ne saurais pas dire ce qui vient en premier, sa sensibilité, son imagination, de son intelligence, et que peut-être justement c'est un des livres où l'écart se réduit peut-être plus que précédemment dans ces autres livres ou dans un autre livre d'histoire. L'écart entre l'histoire et la littérature et peut-être aussi l'écart entre la discipline et la liberté. Discipline, Antoine Lilti le disait tout à l'heure, l'histoire comme discipline, et on peut le prendre tout à fait au sens premier du terme, et la littérature comme liberté. Et dans ce récit de filiation, justement, où tout le monde est finalement, d'une certaine manière, tenu par une forme de déterminisme. J'ai aussi dit à Stéphane, j'admire ta liberté. Et je pense que c'est paradoxal, mais pas contradictoire en ce qui le concerne. Alors, c'est peut-être simplement une question d'écriture, une simple question d'écriture. En tout cas, il est sûr que, je crois, l'historien comme le littéraire ou l'écrivain comble peut-être justement ces écarts avec l'écriture et la réécriture. Alors, l'histoire a besoin des écarts. L'historien lui-même a besoin de l'écart pour pouvoir analyser. Alors peut-être peut-on comprendre aussi le titre, la fin, pardon, du livre ainsi, « Adieu à la guerre ». Ce n'est peut-être pas justement faire la paix, mais peut-être prendre une distance avec les combats réels ou imaginaires que l'historien, que l'individu mène. Et Dieu sait si les combats imaginaires peuvent être aussi dévastateurs que les combats réels. Alors, la littérature, je voudrais finir là-dessus, et peut-être plus que l'histoire justement cherche, mais peut-être les écrivains me le diront-ils mieux, J'ai toujours eu l'impression, quant à moi, non pas d'avoir besoin de l'écart, mais au contraire d'essayer de le réduire le plus possible. Et au fond, je me suis demandé si finalement, ceux qui pratiquent la littérature et ceux qui pratiquent l'histoire n'ont pas une activité, au fond, profondément mélancolique. Profondément mélancolique, et je me demandais, je demande à Stefano D'Orozo si justement il a ce sentiment-là, et s'il n'a pas, il ne sent pas, et je le demande aux historiens aussi, s'il ne sent pas souvent cette espèce d'assédia dont souffraient les moines du Moyen-Âge, et que nous pourrions sentir, nous, parce que quand nous essayons de comprendre le passé et de le toucher du doigt, nous sentons au contraire, à l'inverse, l'opacité des choses, la pesanteur de notre propre pensée, l'exil dans lequel nous sommes par rapport au passé, cette absence d'intimité, cette intimité avec le passé qui se dérobe sans cesse, cette espèce de d'épaisseur qu'on n'en finit pas de traverser. Épaisseur qu'on voit à l'œuvre, par exemple, dans Les Champs d'honneur, puisqu'il s'agit de tout remonter, justement, pour en arriver à la guerre. Alors, moi-même, je dirais que, justement, je n'ai pas fait un livre d'histoire en écrivant la biographie d'Apollinaire, et notamment la dernière partie qui est consacrée à la guerre. Je crois que j'aurais plutôt eu, en tout cas, une sorte de rêve d'histoire empathique. Ma reconstitution est une sorte de fantasme de reconstitution intégrale du passé, avec une espèce d'identification affective aux personnages et aux événements, identification affective que Benjamin appelait Einfühlung, justement. Je suis un peu dans les utopies consolatrices. Et avec Stéphane, on a déjà eu l'occasion longuement de parler de ce genre de choses. Alors, du coup, je me demande si finalement écrire l'histoire comme écrire la littérature, ce n'est pas finalement aussi verser ce pharmacone dont François Hartog parle quand il évoque justement Hélène dans le chant 4 de l'Odyssée, versant un épenthès, un antipène, pour que les auditeurs puissent écouter enfin l'histoire d'Ulysse et de la guerre de Troie. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'inverse en quelque sorte. C'est-à-dire qu'Hélène verse ce filtre pour qu'ils puissent prendre de la distance par rapport à ce qu'ils écoutent parce qu'ils sont trop près. Et d'une certaine manière, je me demande si finalement l'alcoolisme de Philippe, l'ébriété poétique des surréalistes, la toxicomanie du personnage de Pierre Lemaitre ne sont pas là, et la façon d'écrire la littérature ne sont pas là plutôt pour essayer de réduire l'écart, pour verser une sorte d'antipène, pour nous consoler d'être si loin et si petit par rapport à ce passé qui se dérobe. Et si finalement la littérature n'est pas une façon de créer de la présence plutôt que de la mémoire. Et peut-être une façon, Jean Roux en parle dans Un peu de la guerre, et Yannick Enel en parle aussi à la fin de Yann Karski. Est-ce que peut-être nous ne cherchons pas finalement à ressusciter quelque chose, sans forcément d'ambition spirituelle, chrétienne, mais bien quelque chose comme, qui est de l'ordre de la résurrection ?